Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Au menu aujourd'hui, l'info du jour, retour sur l'attentat du Rock Trait du Don il y a 50 ans, interview pour annoncer des projections et un colloque autour du film Secret Toxique en Ille-et-Vilaine. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage à l'Hôtel Pasteur pour annoncer Visio Phare, un festival qui défend un mapping low-tech, et puis recommandation, une projection de documentaire à l'Arvor. Bienvenue dans La Reine. Tous les jours, c'est la même chose. On débute cette émission avec une info que je sélectionne pour vous dans l'actualité locale. Aujourd'hui, on fait un retour 50 ans en arrière lors d'un événement devenu historique, à savoir l'attentat du Rock Trait du Don dans les Monts d'Arrée, donc dans les Monts d'Arrée en Finistère. On est dans la nuit du 13 au 14 février 1974. Le FLB, Front de Libération de la Bretagne, place des explosifs près d'une antenne télé haute de 220 mètres. Le pylône s'écroule, ce qui privera pendant plusieurs semaines de nombreux Bretons dans le Finistère, mais aussi dans une partie des Côtes d'Armor et du Morbihan, qui privera tout ce monde-là des trois premières chaînes de télévision de l'époque, des chaînes dirigées depuis Paris par l'ORTF, l'Office de Radiodiffusion Télévision Française. Il faut dire que dans les années 70, la télé occupe une place primordiale dans les maisons, d'où un attentat qui crée un véritable choc. Je découvre dans l'article consacré à ce sujet sur France 3 Bretagne que le sabotage intervient quelques semaines après qu'un journaliste de la seule émission diffusée en langue bretonne ait été censuré, et une année 1974 où le FLB devient très révolutionnaire et d'extrême gauche. Ce sont les mots d'Erwan Chartier, rédacteur en chef du Poher Hebdo et puis d'un livre sur cet épisode. L'organisation du FLB, le Front de Libération de la Bretagne, est même sous le coup d'une dissolution prononcée par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Enfin, si tout a été minutieusement calculé pour que l'attentat du Rock Trait du Don ne fasse aucune victime, un homme décédera, c'est Pierre Perron, le directeur du site, qui meurt d'une crise cardiaque le 14 février en découvrant l'ampleur des dégâts. Les auteurs, ils ne seront jamais officiellement identifiés. Je termine en vous renvoyant vers un numéro de LSD, la série documentaire de France Culture, consacrée au Front de Libération de la Bretagne et au terrorisme breton. C'était durant l'été 2023. 4 épisodes réalisés par Christelle Le Polothèque, qui était au festival brestois Longueur d'onde le week-end dernier, pour en parler. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'une première interview.
Donc si le tribunal pose ces questions-là, c'est qu'il estime qu'il y a effectivement une grosse difficulté par rapport à ces autorisations de mise sur le marché, par rapport à ces pesticides qui sont insuffisamment évalués.
On s'aperçoit par de nombreux aspects qu'en fait tout ne va pas bien et que les produits mis sur le marché ne sont pas aussi sûrs qu'on veut bien nous le dire.
Lorsque l'équipe de Gilles-Éric Serralini s'intéresse à la composition réelle des produits commercialisés, ils y retrouvent de l'arsenic, du plomb et des métaux lourds.
Si on a ces problèmes de gens qui pissent du glyphosate, de pollution de l'environnement, de toxicité, il y a un problème qui se joue dans le processus d'autorisation de mise sur le marché.
Isabelle Georges, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes administratrice de l'association Secret Toxique qui a mené une campagne dès 2020 sur le sujet des pesticides, qui a ensuite sorti un film en 2021. Et vous continuez à présenter ce travail dans différents coins de France avec un arrêt là dans notre département en Ille-et-Vilaine du 13 au 23 février. Isabelle, vous êtes aussi membre d'une autre association, les Pisseurs Involontaires de Glyphosate en Bretagne. On redit un mot rapidement sur cette structure, puisque c'est un des partenaires du film. Des habitants se sont mobilisés pour récolter leurs urines et voir ce qu'on trouvait dedans il y a de ça quelques années.
Oui, tout à fait. Alors, je peux vous reprendre un tout petit peu sur la coalition. C'est une coalition Secret Toxique. C'est une coalition qui regroupe pratiquement 80 associations et qui a été formée en 2020 par Nature et Progrès, Campagne de Glyphosate France et Génération Future. Et donc, l'association, je suis administratrice de Secrets Toxiques et aussi de PIC BZH, l'association des pisseurs à volontaires de glyphosate en Bretagne. Notre film Secrets Toxiques, nous l'avons sorti en 2021. Il tourne depuis 2021. On a un coup d'accélération en 2023 avec le Tour de France, puisqu'on a décidé de faire un Tour de France pour diffuser ce film, qui est un petit peu un film d'un lanceur d'alerte qui alerte les citoyens et les citoyennes, les agriculteurs aussi, évidemment, sur la sous-évaluation de la toxicité des pesticides employés.
Est-ce qu'on peut rajouter un mot donc, sur les pisseurs involontaires de glyphosate lancés en 2019 pour la région Bretagne? Aujourd'hui, il y a des référents dans tous les départements et des actions sont toujours menées?
Alors, les pisseurs involontaires de glyphosate, c'était une émanation un petit peu des faucheurs volontaires. Notre nom vient aussi d'un clin d'œil aux faucheurs volontaires, parce que je suis aussi faucheuse volontaire.
Alors entendez, faucheurs volontaires d'OGM, organismes génétiquement modifiés.
Donc nous avions fait, et c'est ce qu'on retrouve dans le film Secrets Toxiques, des actions dans les jardineries en 2016 déjà, pour dénoncer la présence de toxiques dans les bidons vendus au grand public en jardinerie. C'était des bidons de Roundup, donc de produits dont la substance active était le glyphosate. Nous les avons rendus impropres à la vente en les peinturlurant. Et il y a eu des actions en Bretagne. On a fait des actions à Guingamp, à Lorient, Quimperlé. Il y a eu des actions à Foix aussi, en Ariège, à Privas, Béziers. Donc, c'était une action nationale. Et suite à cette action, l'avocat des faucheurs de Foix a posé une question préjudicielle à la Cour européenne de justice sur l'évaluation de la toxicité de ces pesticides et de la formulation complète des composés non déclarés et qui rendent le mélange beaucoup plus toxique que la molécule active seule. La Cour européenne de justice a répondu à la question préjudicielle en relisant le texte, en interprétant le texte législatif européen sur l'évaluation de la toxicité des pesticides, et il nous a donné raison en disant que il n'était pas suffisamment évalué et que l'évaluation des pesticides devait se faire sur la toxicité à long terme et sur l'ensemble de la formulation du produit, pas simplement sur une molécule active déclarée par les industriels.
Ça veut dire que ces produits que vous avez repérés, on ne les trouve plus en rayon aujourd'hui ?
Alors, on en trouve. On trouve des produits dits alternatifs au glyphosate dans les jardineries. Mais quand nous avons refait les analyses de ces produits dits alternatifs au glyphosate, ces produits qui sont présentés comme inoffensifs dans les jardineries en vente en grand public, des herbicides notamment, dont la molécule active est l'acide acétique ou l'acide pélargonique ou l'acide caprylique. On a l'impression que ce sont des acides naturels. Hein. L'acide pélargonique, c'est du géranium. Donc on a l'impression que ce sont des produits naturels. Et quand Gilles-Éric Serralini et Gérald Ginger ont analysé ces produits, ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un cortège de produits très toxiques, cancérigènes avérés dans ces bidons, et qu'ils n'étaient tout simplement pas déclarés, qu'ils ne figuraient pas sur les étiquettes. Donc ces produits, ce sont des dérivés on s'est rendu compte que c'était des dérivés du pétrole, des molécules aromatiques polycycliques, du benzoapyrène, avec beaucoup de métaux lourds, du plomb, du mercure, du cadmium. Donc ce cocktail-là n'est pas déclaré, et c'est le cocktail, l'ensemble du produit, qui est extrêmement toxique.
Comment est-ce que vous vous retrouvez à militer sur ce sujet? C'est quoi votre histoire là avec ce combat contre les pesticides?
Alors l'histoire, c'est que j'ai fait partie des gens qui sont allés peinturlurer les bidons dans les jardineries en 2016, et que suite à cette action, on a monté la campagne Glyphosate France avec les copains ariégeois qui ont mis en place un protocole pour retenir les urines devant huissier et les envoyer dans un laboratoire en Allemagne pour évaluer notre imprégnation au glyphosate. Donc moi, je me suis lancée dans l'organisation de cette campagne en Bretagne, et c'est là que nous avons créé PIC BZH. Donc avec, sur l'ensemble des 5 départements, 800 plaintes, 800 analyses d'urine, nous sommes tous et toutes imprégnés de glyphosate, on en a tous dans nos urines, et nous avons porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Enfin voilà, cette plainte a été instruite au pôle de santé publique à Paris. et fait partie des 5400 plaintes qui ont été déposées au niveau national sur le même sujet, sur cette imprégnation de la population au glyphosate.
Donc, on le redit, le secret toxique, c'est d'abord une campagne qui a été menée dès 2020, un film sorti en 2021, avec des projections là qui arrivent en Ille-et-Vilaine. On peut se poser la question de pourquoi remettre en lumière ce film-là début 2024. On pense évidemment à la marche arrière assez récente du gouvernement sur le plan éco-phyto dans le cadre de la mobilisation du monde agricole. Votre combat, finalement, est toujours d'actualité, voire encore plus d'actualité aujourd'hui.
Oui, il a encore plus d'actualité, d'autant plus que l'angle d'attaque que nous avons est très subtil. Il s'agit d'interdire, de retirer les autorisations de mise sur le marché de ces produits. Donc, on n'est pas en train de se dire de compter les quantités ou les indicateurs, les nodules, le nouvel indicateur de risque que le gouvernement essaye et la FNSEA essaye d'imposer là. Quel que soit l'indicateur de risque, si les produits n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, on n'a plus besoin de discuter, de pinailler sur les différents indicateurs. Et notre sujet, c'est que les produits sont extrêmement toxiques et l'autorisation du glyphosate qui a été faite par l'Europe à la fin de l'année dernière, nous l'avons jugée illégale. Pour nous, elle est illégale puisqu'elle ne respecte pas les critères exigés par le législateur européen. Nous avons porté des recours, un recours contre la décision de la Commission européenne auprès de la Cour européenne de justice. Et nous portons aussi une demande de révision interne de la décision de la Commission.
Ce recours et cette demande de révision interne sont toujours dans l'attente d'une réponse ?
Alors oui, on en est au début. Hein. On a déposé le recours le 26 janvier dernier. Donc, c'est quand même extrêmement long parce qu'il faut décortiquer toute la législation européenne et l'accès au droit n'est quand même pas si simple que ça pour le simple citoyen et au niveau européen, c'est pas si simple que ça. Il faut avoir un intérêt à agir, un intérêt juridique. Il faut que notre statut juridique soit impacté par la procédure. Donc, c'est quand même assez compliqué. Voilà, ces dossiers mettent beaucoup de temps à être montés, mais nous y sommes parvenus et c'est déposé le 26 janvier dernier.
Alors, on le dit, Secret Toxique, le film, il est à voir gratuitement accessible sur YouTube pour les auditeurs qui nous écoutent. Si on résume, développement de maladies chroniques, chute de la biodiversité, disparition des abeilles. Depuis quelques années, les conséquences de l'usage massif des pesticides interpellent l'opinion publique. Mais comment expliquer ces effets sur la santé et la biodiversité alors même que la réglementation européenne interdit tout produit dont l'épandage aurait des conséquences sur l'un ou l'autre ? C'est le sujet qui est exploré dans ce film et qui s'ouvre sur les mots d'une biologiste américaine dans un ouvrage qui est paru dans les années 60. Il y a un petit moment, la contamination de notre monde n'est pas seulement une affaire de pulvérisation massive. Les innombrables petites expositions quotidiennes et permanentes peuvent s'avérer plus dangereuses encore, comme l'inlassable filet d'eau qui ronge peu à peu la pierre la plus dure. Ces contacts continuels avec de dangereux produits chimiques de la naissance à la mort peuvent se révéler désastreux. On comprend que ces sujets, ils ont finalement été étudié il y a de nombreuses années, c'est pas un sujet qui est nouveau. On peut redire quels éléments on a aujourd'hui sur le lien entre l'exposition aux pesticides et le développement de maladies. On entend des chercheurs sur le sujet dans le film Secret Toxique.
Oui, sur le développement de maladies, bien évidemment, puisque les produits cachés, les molécules cachées, donc en dehors de la molécule active déclarée qui représente moins de 50% du volume d'un bidon de pesticides, on a tous ces produits qui sont dérivés du pétrole et qui sont, eux, cancérigènes avérés. Et entre autres, le glyphosate était déclaré aussi, a eu un brevet en 2010 déposé par Monsanto comme antibiotiques à large spectre. Donc, on imagine aussi que pour la santé publique, c'est quand même pas terrible d'avoir des antibiotiques partout dans notre environnement qui peuvent conduire à des résistances aux antibiotiques, alors qu'on en aurait besoin pour certaines pathologies. Les autres produits sont souvent des perturbateurs endocriniens, donc ils sont actifs dans nos organismes à très faible dose, à des doses endocrines. Donc, oui, c'est documenté de partout, tout le monde le sait. Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, qui fait partie de la coalition Secret Toxique et avec qui on se retrouve sur beaucoup d'actions et de communications, fait le lien aussi entre l'exposition professionnelle des agriculteurs et les différentes molécules qui sont épandues dans les champs. Donc, on le sait que ça rend malade. Il y a des fonds d'indemnisation qui sont là pour indemniser les gens qui sont rendus malades par ces molécules, puisque c'est prouvé.
Malade de...
Payer, enfin indemniser les malades que de fermer le robinet à la source.
Avec des personnes qui sont donc malades de cancer, mais aussi de maladies respiratoires, de troubles cognitifs ou encore de maladies chroniques. Toutes ces questions, elles sont à découvrir dans le détail donc dans ce film Secret Toxique, qui est mis en lumière à travers une série de projections du 13 au 23 février donc en Ille-et-Vilaine. Ça et puis un colloque à Rennes mercredi 21 février. Ça arrive donc dans ce contexte particulier où le gouvernement vient de faire marche arrière sur le plan éco-phyto, tout en maintenant, ça c'est ce qui est assez fort, l'objectif de réduire l'utilisation des pesticides de moins 50% d'ici 2030. On arrive donc à ces projections, on les annonce ce mardi soir à Saint-Malo, le mercredi 14 février à l'Arvor à Rennes, et puis le jeudi 15 février à Guipry-Messac, le lundi 19 février à Vitré, mardi 20 c'est à Montauban de Bretagne, et enfin vendredi 23 à Saint-Aubin du Cormier. Chaque projection elle est suivie d'un échange avec différents acteurs engagés contre les pesticides et ils sont nombreux, vous n'êtes pas seul, il y a vraiment une réflexion collective qui est portée par de nombreuses associations.
Ah oui, 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 à chaque fois il y a une association et donc ce soir à Saint-Malo il y aura l'association Ozan. Ozan s'occupe des pollutions de l'air sur Saint-Malo, les pollutions à l'ammoniac, aux pesticides, voilà, est très actif sur la détection et la dénonciation des pollutions de l'air malouin. Et ensuite, il y a des représentants du mouvement du Agribio, on a aussi surtout le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest qui interviendra à plusieurs reprises, Eau et Rivières de Bretagne, aussi partie prenante dans Secret Toxique, la Passiflore, je risque d'en oublier, mais vraiment, il y a tout un tissu associatif qui soutient cette étape de Secret Toxique en Ille-et-Vilaine.
Donc tout le programme, il est à retrouver en ligne sur le site internet secrettoxique.fr et on arrive à ce temps fort organisé mercredi 21 février, à un colloque qui est organisé à la Maison de la Consommation et de l'Environnement, c'est à deux pas de la gare de Rennes. C'est organisé de 10h à 18h et au programme une table ronde sur les leviers politiques de la transition agroécologique, un temps d'exposé sur les pesticides et la santé publique et puis une conférence sur la pollution des pesticides. C'est un événement qui est ouvert à tous, des fois quand on entend colloque, on pense événement professionnel. Là, c'est plutôt à destination du grand public.
Ah, c'est à destination de tout le monde, hein, professionnel et grand public. Les leviers politiques sont intéressants parce qu'on a différents échelons de la politique. On a des gens qui sont à l'échelon européen, Lydie Massard, un sénateur, une députée, quelqu'un du conseil régional et un acteur engagé dans la Fédération régionale des agriculteurs biologiques de Bretagne. Donc ça, c'est très intéressant de voir ce que chacun peut faire à son échelle. L'exposé sur les pesticides et la santé publique, ben, c'est pareil, ça va être très riche, très enrichissant.
Et on y retrouvera entre autres un membre du collectif d'alerte des médecins sur les pesticides. Et la journée se terminera avec l'autrice de l'imposture océanique, à savoir Catherine Le Gall. Pour l'info pratique, on peut rajouter qu'il y a un temps de déjeuner qui est organisé sur le temps du midi avec un buffet bio proposé par Mademoiselle Potiron. Il faut penser à réserver, auditeurs, si vous souhaitez y participer. Je vous représente Isabelle Georges, vous êtes administratrice de Secret Toxique, ce mouvement qui a sorti un film du même nom qui est mis en lumière en ce moment dans le département. Il y a des projections organisées du 13 au 23 février en Ille-et-Vilaine et puis ce colloque proposé mercredi 21 février. Ce sont donc en tout 7 événements que vous organisez pour, on l'a compris, alerter l'opinion publique sur la sous-évaluation de la toxicité des pesticides. Le détail est à retrouver en ligne sur secrettoxique.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous. J'espère vous retrouver nombreux pendant les projections et au colloque.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse le constat des différents écueils, des différentes incohérences qu'il y a dans ces procédures d'homologation. Et que, au bout du bout, on fasse évoluer la façon dont on met en marché des pesticides. Les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, et les utopies d'aujourd'hui sûrement les réalités de demain. Qu'on fasse le constat qu'il faut qu'on arrête complètement l'utilisation des pesticides. Je suis peut-être un optimiste maladif, mais j'y crois.
Là, moi je considère Secret Toxique comme une machine de guerre. pour attaquer la législation sur les pesticides.
Story sur Canal B, une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio, et que vous retrouverez sur un album Sounds Good, attendu pour le 19 avril chez Big Crown Records. Ce sera le deuxième disque pour ce groupe originaire de Californie que vous venez d'entendre dans l'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr. Canal B qui vous ouvre son micro si vous avez un événement ou une action à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec votre association, votre collectif ou même parfois l'institution dans laquelle vous travaillez. Tant que c'est dans le champ de l'information locale, n'hésitez pas à m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et après, je reprends contact avec vous pour vous proposer un échange ici en studio, un reportage sur le terrain ou pourquoi pas pour l'annoncer sous forme de recommandation du jour. Pour le moment, on poursuit cette émission avec un reportage. Et direction l'Hôtel Pasteur à Rennes, où il se passe souvent des choses, qui accueillera bientôt le festival Visiophare. Ce sera samedi 16 mars, un événement proposé par des artistes des arts numériques qui interroge la pratique du mapping à l'ère de la transition écologique. Le mapping, vous savez, c'est le fait de projeter des images sur des surfaces avec, à l'aide de vidéoprojecteurs. Vous retrouverez la programmation de ce festival, donc de projection analogique, sur les réseaux sociaux à travers un compte Instagram et une page Facebook, et vous pouvez si vous le souhaitez réserver une place pour les ateliers qui seront organisés dans ce cadre. Reportage avec pour commencer les présentations de Paul Vivien et Julie Blanc, dont l'atelier est situé à Saint-Grégoire, donc tout près de Rennes.
Alors, est-ce que vous ne les prenez pas dans les yeux? Voilà, Moi, je m'appelle Paul Vivien, je suis artiste numérique. Je travaille beaucoup avec la projection, qu'on appelle mapping. Et au sein du projet VisioPhar, je m'intéresse beaucoup à reproduire ce qui est possible normalement en mapping numérique, mais en analogique et en low-tech. Donc faire de la projection sur des bâtiments avec le moins de ressources possible. En ce moment, je travaille également sur un système low-tech de création de paysages. Et j'utilise des maquettes qui sont filmées en direct par une caméra. Et c'est une manière pour moi d'essayer d'imiter ce qui se fait en 3D pour créer des décors, mais avec des maquettes comme ça se faisait auparavant dans le cinéma. Mes créations sont actuellement visibles à Hôtel Pasteur dans le cadre de mon exposition personnelle qui commence demain le 14 février jusqu'au 2 mars. Et autrement, c'est visible à mon atelier de Saint-Grégoire tout au long de l'année. Je suis basé là-bas.
Moi, je m'appelle Julie Blanc, je suis une artiste pluridisciplinaire et j'ai notamment une installation d'art visuel qui s'appelle L'Encroscope, qui est une installation avec une base de VisioPhar à destination du public qui est laissée en fait dans des festivals et qui peut être saisie par le public pour s'en servir pour créer à base d'encre et de pochettes plastiques des visuels à projeter eux-mêmes. Ça crée des formes très oniriques, très abstraites en fait, vu que c'est vraiment de l'encre qui coule un peu partout, c'est dur de faire quelque chose de vraiment contrôlé. Mais en mélangeant les couleurs et en tordant le papier, on arrive à des textures assez abstraites et assez... Oui, c'est très onirique, quoi.
Et vous êtes installée où, à Rennes?
Moi, je suis installée à Saint-Grégoire.
Aussi
dans le même atelier que Paul.
Le projet VisioPhar, il est effectivement développé en partie au sein de l'équipe par des gens qui sont issus des arts numériques, donc des pratiques artistiques liées aux nouvelles technologies pour les questionner, pour expérimenter avec. Et au sein de cette pratique, on fait beaucoup de projection mapping numérique, donc c'est-à-dire de la projection sur bâtiment à partir de contenus créés numériquement. C'est quelque chose qui est popularisé depuis plus d'une dizaine d'années par la Fête des Lumières de Lyon. Donc au sein de l'équipe VisioPhar, on est quelques membres à être issus de cette pratique de projection architecturale numérique et on est devenu un petit peu fatigué ou on commençait à trouver que ça allait contre nos valeurs de plus en plus éco-responsables de faire ce type de pratique avec des vidéoprojecteurs qui consomment 2000 watts, qui font 50 kilos, qui demandent des ordinateurs toujours plus puissants qu'il faut changer tous les 3 ans, des logiciels très complexes à utiliser sur lesquels ça prend du temps de se former. Cette pratique, ça nous arrivait de la transmettre lors d'ateliers et d'actions culturelles. Ça nous était demandé et proposé. On le faisait avec plaisir, mais on s'apercevait très souvent que les gens qui participaient à ces ateliers ne pouvaient absolument pas continuer cette pratique par la suite, parce qu'ils n'avaient ni les ordinateurs, ni les licences de logiciels, ni les vidéoprojecteurs. Donc c'est posé une question assez importante à la fois d'accessibilité et d'éco-responsabilité, de comment on pourrait trouver une manière de faire de la projection mapping sur l'architecture, tout en consommant moins d'énergie, en n'ayant pas besoin de tous ces ordinateurs et de ces ressources. Et c'est comme ça qu'on en est venu à développer VisioPhar, en se disant ça serait super chouette de reprendre cette technique qui existe en fait depuis le XVIIe siècle. À la base, ça s'appelait la lanterne magique, et ça faisait évidemment des surfaces toutes petites, il n'y avait pas encore l'électricité qui était vraiment développée. Et on s'est dit, si c'était possible il y a 300 ans, pourquoi ça ne serait pas possible aujourd'hui, surtout avec les technologies qu'on a?
Vous êtes combien dans le collectif ?
Le collectif, vu que c'est un projet open source qui est en ligne, c'est assez dur à dire. Là, je dirais qu'on est une quinzaine de personnes à travailler en recherche et développement là-dessus, à contribuer d'une manière ou d'une autre avec des idées, des créations et du temps de travail. Et il y a un peu toutes ces personnes qui seront présentes au moment du festival le 16 mars à Pasteur pour présenter un maximum d'idées et de choses autour de la projection analogique. Nous, on est venu prendre le minimum de technologie nécessaire pour avoir des projecteurs puissants, c'est-à-dire une petite LED qui pourtant délivre beaucoup de luminosité. Et on a enlevé dans nos machines tout ce qu'on trouvait superflu pour la projection, donc toute l'électronique quasiment. Et on obtient ces rétroprojecteurs qu'on développe en prototype, qu'on appelle du coup les VisioPhar, et qui ont une petite LED à l'intérieur et qui sont faits essentiellement à partir de pièces recyclées.
deux rétroprojecteurs qui partent à la poubelle. C'est les milieux scolaires qui les jettent de plus en plus aujourd'hui pour les remplacer par des vidéoprojecteurs dans les salles de cours. Donc nous, on les récupère et on en fait des outils de projection monumentale grâce à ces recherches et développements autour de la LED.
Je peux vous laisser juste le décrire comme on est en radio. C'est un objet qui est assez petit, qui s'ouvre un peu comme un clapet. Comment on peut le décrire ?
Alors le Visiophare, notre rétroprojecteur hacké, le modèle qu'on développe le plus actuellement, il est fait avec quatre tiges filetées qui partent du sol. On dirait un petit peu deux cubes empilés l'un sur l'autre. Il y a un des cubes qui serait transparent, qui permet de protéger les visuels qui sont faits sur calque au milieu. En bas, il y a cette boîte qui est fermée, qui contient en fait la LED qui est assez puissante et qui projette pour illuminer le visuel fait sur la plaque de verre. Et ça va aller jusqu'au sommet où il y a une lentille et un miroir. Et c'est ça qui va envoyer l'image, qui va la projeter sur les surfaces architecturales. Et ça ressemble finalement beaucoup aux rétroprojecteurs qu'on avait avant. Donc les vieux projecteurs avec la lentille, le miroir et les calques. Et on a revisité ce design pour qu'il soit plus pratique, plus résilient, plus modulable, puisque les projecteurs de classe sont assez durs à transporter. Il est assez dur de faire des modifications dessus pour les améliorer. Et le design qu'on met en place permet différentes choses. On peut se fixer sur les tiges filetées qui en font tout le tour. On peut facilement faire un trou pour mettre un ventilateur ou ajouter des boutons de contrôle. Et puis, tout simplement, on peut le démonter facilement pour le mettre dans une valise et aller jouer avec quelque part. Le projet Visiophare, il est né à Rennes, à travers plusieurs résidences et différents acteurs sont basés à Rennes. Mais au final, qu'il est en ligne, puisqu'il y a cette communauté autour du site visiophare.org où les gens peuvent venir échanger. Et ces machines sont aussi faciles à reproduire et à fabriquer sans forcément des connaissances très poussées. Donc ça fait que les gens qui trouvent les plans et qui habitent dans une autre ville que Rennes, ils peuvent en fait télécharger les plans sur le site et se le fabriquer à partir de pas mal de pièces de récupération recyclées, ce qui en fait aussi une machine facile à fabriquer et pas très chère pour un peu tout le monde n'importe où. Le projet Visiophare, il est porté par les deux associations Oyer et Crocofumé.
Oyer, c'est un label d'art visuel situé en région parisienne, et Crocofumé, une compagnie d'art vivant basée à Toulouse.
Mais il est aussi soutenu depuis septembre 2023 par les bourses Arviva, qui sont des tremplins pour l'innovation éco-responsable dans le spectacle vivant. Et l'outil qu'on développe, qui est le Visiophare, donc c'est un outil qui est utilisé aussi pour du spectacle vivant, pour de la projection architecturale. En fait, ça peut servir à plein de choses après. Nous, on le développe vraiment sur un axe spectacle. Et ces bourses Arviva nous ont permis de faire tout ce temps de travail de recherche et développement pour en faire un outil plus écologique en open source. Tout ce qu'on trouve, on le remet en ligne sur Internet en open source sous forme de tutoriel, sur un forum, sur un Instagram.
Hello everyone, welcome back to another tutorial. I'm gonna show you how to convert an halogen overhead projector to a LED overhead projector.
L'événement que Julie va présenter juste après, c'est le temps fort autour de ce projet où toutes ces ressources open source qu'on développe, on va un petit peu les restituer dans un événement tout public à Tastor.
Le 16 mars, ici, donc à l'hôtel Tastor, sera organisé le premier grand événement porté par Visiophare, du coup, qui s'appelle le Festival Visiophare. Ce sera de 16h à 22h dans les différents espaces de l'hôtel Pasteur. Il y aura des expositions de projections immersives dans les espaces intérieurs, donc dans différentes salles. Il y aura également une conférence autour de l'éco-responsabilité dans les pratiques artistiques et des projections du coup architecturales à l'extérieur des bâtiments. Les énormes en gros projections sur toutes les façades qui nécessitent plusieurs de ces machines Visiophare. Il y aura aussi des ateliers qui seront ouverts au public et qu'on va détailler ultérieurement, mais qui sont notamment en partenariat avec l'EduLab, qui nous aide à porter sur cet aspect-là.
Oui, donc l'EduLab est le Fab Lab de l'hôtel Pasteur. Il y a EduLab Villejean et EduLab Pasteur, qui est en partenariat avec cet événement. Et l'EduLab co-organise avec nous les ateliers d'initiation aux pratiques de la projection analogique. Il va y avoir plusieurs ateliers essentiellement sur la création de contenu, donc où les participants, participantes vont pouvoir venir dessiner sur des calques et jouer avec l'architecture, jouer avec les supports de projection. Ça peut être fait avec du feutre, de la peinture, de la gravure, des liquides, plein de choses du moment que c'est un petit peu transparent et que ça prend la lumière. Et il va y avoir aussi des ateliers autour de la fabrication de ces modules LED, donc de ces systèmes d'éclairage en partie à base de pièces recyclées, qui sont des kits un petit peu fournis par Visiophare, avec toute cette partie recyclée au niveau du refroidisseur de LED. Donc aussi en gratuit, le public va pouvoir venir se fabriquer son kit de modules d'éclairage LED et repartir avec à la fin de l'atelier. Donc ça, les ateliers, ça va être les 13, 14 et 16 mars dans l'après-midi, en amont du festival et du coup aussi le 16 mars, le jour du festival. C'est sur inscription en amont et après, pendant le festival, c'est plutôt en libre circulation. Les gens peuvent s'installer et dessiner des visuels et s'amuser avec sur des grandes surfaces de projection.
Sur ce qui sera projeté sur la journée de festival, on peut décrire peut-être un peu les ambiances de ce à quoi ça va ressembler et de ce que ça peut procurer aux spectateurs.
Du coup, sur la journée du 16 mars, comme on évoquait tout à l'heure, il y a différents profils d'artistes et intervenants, intervenantes qui vont venir projeter des contenus visuels. On va axer pas mal la création de contenu autour de l'architecture, c'est-à-dire jouer avec les reliefs de l'architecture, avec les fenêtres, les colonnes et les différentes textures. C'est ce qui se fait complètement en fait en mapping numérique normalement. Et on va essayer de proposer cette alternative éco-responsable du mapping en version analogique et low-tech. Ça c'est pour les contenus qui vont être en extérieur sur l'architecture. Il va y en avoir un petit peu aussi en intérieur, mais les surfaces intérieures ont des architectures moins intéressantes à explorer, c'est plutôt plat et blanc, mais on va en profiter pour en faire certaines salles, pour en faire des expériences immersives avec de la projection en 360 autour. Donc certaines salles d'Hôtel Pasteur, notamment les appartements du deuxième étage, vont être exploitées de cette manière-là par des artistes en illustration, qui vont un petit peu faire comme de la fresque murale immersive et lumineuse, mais en analogique. On a aussi des espaces, tous les espaces dits interactifs, où le public va pouvoir créer ses visuels en direct, avec des calques, des encres. On a des petits modules aussi, c'est des différents motifs sur calque que les gens peuvent placer pour s'amuser à faire des compositions visuelles. Donc on essaie d'explorer un maximum de champs possibles d'expression visuelle possible avec la projection analogique.
Et ensuite, donc, nous, on aura une programmation avec différents types d'artistes. En tout, pour l'instant, il y en a une dizaine. Il y a à peu près 50% qui viennent de Rennes. Et ça mêle plusieurs disciplines, donc on va avoir des illustrateurs, des illustratrices, donc notamment Hugo Le Fur, Anaïs Rallo et Laetitia Hérault. Des artistes numériques, donc Paul Vivien et Dylan Côte. Des artistes visuels, donc Captain Delight, Julie Blanc et Victor Badin. Et il y aura aussi des designers, donc avec notamment les artistes du Lédu Lab et Tom Herbrard. Nous, ça nous intéresse de faire appel à des gens qui viennent de différentes disciplines aussi pour leur montrer ce qui est possible de faire pour eux une nouvelle machine telle que les Visiophares. C'est-à-dire que par exemple, des illustrateurs, des illustratrices qui ont l'habitude de travailler sur des formats papier à format relativement réduit ou qui ont tout simplement des caractéristiques limitées par leur définition, ils peuvent s'essayer sur un nouveau support où, en gros, au lieu de dessiner sur un papier, ils dessinent sur un calque qu'ils peuvent ensuite projeter à des échelles complètement différentes sur lesquelles ils n'ont pas du tout l'habitude de travailler et de se mettre en lien avec des bâtiments, avec une architecture, avec des modules, avec du coup d'autres challenges en fait, artistiques pour eux qui peuvent leur plaire. Ensuite, niveau accessibilité du public, l'événement il sera ouvert à tous les âges, il est complètement kid-friendly, tous les humains de toute taille et de tout âge sont les bienvenus. Ce sera à prix libre, aussi pour que tout le monde puisse se sentir le bienvenu là-dedans. Et il y aura également, en plus de tous les arts visuels du coup, dont on a déjà parlé, une expérience musicale avec des animations et des DJ qui sera portée par un collectif rennais qui est également éco-responsable puisque eux ils gèrent des auto-wash en gros pour laver sa vaisselle de manière ludique et sympathique et qui s'appelle La Frotteuse.
Les ambitions pour la suite après cet événement, puisque Visiophare Festival c'est un temps fort du projet Visiophare, mais on a l'intention de continuer à mener des actions culturelles autour de ce projet pour permettre à des personnes de toujours s'initier à davantage de pratiques de projection et surtout en analogique, qui est bien plus accessible qu'en numérique, puisque là, il n'y a pas besoin ni d'ordinateur, ni de logiciel, ni de autant d'électricité qu'il n'en faut pour des vidéoprojecteurs et des ordis numériques. Là, c'est plus sympathique et convivial. N'importe qui peut s'essayer à dessiner sur les calques, à voir ce que ça rend, à jouer avec des matières un petit peu différentes, même des textiles, du sable, on ne l'a pas évoqué, mais ça fonctionne et ça peut faire des choses assez chouettes. Donc tous ces ateliers qu'on expérimente lors du VisioPhare Festival, on va aussi les renouveler tout au long de l'année à Rennes et même ailleurs.
Et le morceau Bitume mouillé sur Canal B, c'était le choix musical de l'équipe de VisioPhare qu'on vient d'entendre dans un reportage, un titre qu'on retrouve sur un album Vaniel sorti en 2023. C'était le 4e disque de Ventre de Biche, le projet du Lyonnais Lucas Retraite. Avant de vous quitter quand même, la recommandation du jour, à chaque fois en fin d'émission, des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi vous donner des idées de lecture ou encore de podcast. Aujourd'hui, on annonce une projection documentaire à l'Arvor à Rennes. Rendez-vous jeudi 15 février à 18h30 pour découvrir OK Joe, réalisé par le Rennais Philippe Baron l'année dernière. 52 minutes consacrées aux viols et aux meurtres commis par des GI américains en Bretagne dans le climat chaotique de la libération en 1944. L'armée américaine met alors en place une cour martiale pour juger ses soldats et seuls les soldats afro-américains sont condamnés, souvent à des peines capitales. C'est ce que découvre l'écrivain Louis Guillou, alors interprète, et il le racontera dans un court récit de nombreuses années après. C'est cet ouvrage qui donne son titre au film OK Joe, à découvrir donc jeudi 15 février. On avait reçu le réalisateur Philippe Baron dans l'émission estivale de Boulevani. C'était durant l'été 2023. Je vous laisse donc avec un extrait de l'interview.
C'est ici que le drame a eu lieu, 21 août 44. Donc, dans cette maison derrière.
Ask her. Demandez-lui. Oui, la jeune fille était allée au camp. Demandez-lui pourquoi faire. Pour voir, comme tout le monde, a répondu la mère. On disait qu'ils étaient si gentils. Il vous a suivi, a demandé le lieutenant Stone. La jeune fille ne le savait pas. Elle ne s'était pas rendue compte. Il allait faire nuit. On s'apprêtait à aller se coucher quand on a entendu marcher dans la cour. Le soldat avait appelé « Mademoiselle ». Aussitôt, la mère avait fermé les volets, tandis que le père verrouillait la porte. Le père a crié au soldat de s'en aller. « Il n'y a pas ici de mademoiselle pour vous. » Le lieutenant Stone a voulu savoir si le père n'avait pas injurié le soldat, si par exemple il ne l'avait pas traité de sale nègre. Non. On lui a dit de s'en aller. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'est que le soldat, devenu furieux, s'était mis à cogner dans la porte à grands coups de pied. La peur les avait pris. Ils se sont dit que la porte allait céder. Le père et la mère, s'accotant contre la porte, sont restés là longtemps, à pousser. Combien de temps? Je ne sais pas. Ils cognaient très fort, la porte tremblait. On poussait toujours. Il s'est arrêté. On l'a entendu marcher et on a cru qu'il s'en allait. C'est là qu'il a tiré dans la porte. Le père s'est écroulé, la moitié du crâne enlevé. La mère n'avait pas compris tout de suite. Ce n'est que plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'elle était couverte du sang et de la cervelle de son mari, et qu'elle avait la joue à moitié enlevée.
Philippe Baron, par rapport à cet extrait qu'on vient d'entendre, le petit-fils de la victime, lui, qu'est-ce qu'il en savait de cette histoire qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet échange qui a eu lieu entre vous, le réalisateur, et puis ce petit-fils?
Curieusement, Pierrick Perrou, donc le petit-fils, on lui avait raconté que son grand-père avait été tué par les Américains, mais il n'en savait pas beaucoup plus. Et il a fallu attendre qu'il ait 45 ans pour qu'il tombe par hasard sur le livre de Louis Guilloux. Et c'est en lisant cette œuvre littéraire qu'il en a appris beaucoup plus sur son histoire familiale, ce qui est assez paradoxal. Mais donc il en savait très peu, et maintenant ce qu'il en sait dans le détail, c'est ce qu'en a écrit Louis Guilloux, qui lui était présent avec l'armée américaine le lendemain des faits et a enregistré dans sa mémoire le témoignage de la grand-mère de Pierrick et de sa mère, etc. Donc la littérature et le document se mélangent, et j'ai trouvé ça très, très beau.
C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.